Les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est midi à Kinshasa. Bonjour à tous. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a préqualifié hier le vaccin contre Ebola, qui était jusqu'à présent utilisé en RDC selon un usage dit compassionnel, ouvrant désormais la voie à son utilisation dans les pays à haut risque. L'annonce fait suite à la décision prise lundi par la Commission européenne d'autoriser la mise sur le marché de ce vaccin fabriqué par le laboratoire américain Merck Sharp & Dohme sous le nom commercial d'Hervebo. Le 18 octobre, l'Agence européenne du médicament EMA avait déjà accordé son feu vert. Les États-Unis vont continuer d'utiliser l'arme des sanctions contre la corruption et l'impunité en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré mardi l'envoyé spécial de Washington dans la région des Grands Lacs après une visite à Kinshasa. Nouvelle marque du soutien appuyé de Washington envers le président Félix Tshisekedi, Eddie Sango.
Après une visite à Kinshasa, Peter Pham, l'envoyé spécial des États-Unis, a écrit hier dans un communiqué « Nous continuerons à utiliser tous les instruments, y compris les sanctions, pour assurer que ceux qui sont corrompus, ceux qui violent les droits humains, ceux qui mettent en danger la paix et la sécurité dans la région ou ceux qui menacent les processus démocratiques soient tenus pour responsables de leurs actes. » Il encourage le président Félix Tshisekedi à redoubler d'efforts pour réformer et renforcer les institutions démocratiques et pour lutter contre la corruption. En septembre, M. Tshisekedi avait affirmé qu'il voulait changer les mentalités contre la corruption sans faire des chasses aux sorcières. Le président congolais a été reçu le 4 avril par Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. Washington est aussi le premier contributeur financier à la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a tué depuis août 2018 plus de 2000 personnes dans l'est de la RDC.
Le deuxième forum de Paris sur la paix réunit depuis mardi pour deux jours une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, dont une dizaine de dirigeants africains. Le chef de l'État de la RDC, Félix Tshisekedi, a promis que l'Afrique et son pays seraient au rendez-vous des grands enjeux internationaux.
Aujourd'hui, l'Afrique, plus que tous les autres continents, est secouée par des conflits, des guerres et par le terrorisme. Il y a moins de 10 ans, l'Afrique de l'Ouest connaissait la paix et s'était dotée à travers la CEDEAO d'un outil sécuritaire de dissuasion et de prévention de tout conflit. Aujourd'hui, malheureusement, nous y déplorons le terrorisme de Boko Haram. L'Afrique de l'Est n'est pas épargnée non plus. Les terroristes Shebab sèment la mort et la désolation. L'Afrique centrale connaît aussi des conflits au Tchad, en Centrafrique, au Sud-Soudan. La République démocratique du Congo peut être considérée comme le pays qui en a payé le prix le plus fort. Tout en étant convaincu de l'efficacité de la solution militaire, je pense qu'il faudrait aussi élaborer tout un programme de sensibilisation des populations et du dialogue entre les différentes communautés. La solution militaire s'impose pour combattre les groupes armés, certes, mais en plus de cela, il faut répondre au problème de la jeunesse qui a besoin de plus d'encadrement, plus de démocratie et d'emploi. L'Afrique, en général, avec sa position géostratégique, sa population jeune et ses ressources naturelles, doit cesser d'être un problème pour le monde, mais plutôt devenir un maillon important de la solution aux problèmes du monde.
Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, au Forum de Paris sur la paix qui s'est ouvert hier en présence de plusieurs dirigeants. Les djihadistes et les autres groupes armés ont trouvé dans les mines d'or du Sahel une nouvelle source de revenus, profitant de la défaillance des États concernés. C'est une mise en garde de l'ONG International Crisis Group, ICG, dans un rapport publié ce mercredi. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, des groupes armés s'emparent depuis 2016 de sites d'orpaillage dans des zones où l'État est faible ou absent. Leur convoitise est attisée par le boom du secteur aurifère artisanal depuis la découverte en 2012 d'un filon saharien, écrit cette organisation dédiée à la prévention et à la résolution des conflits. Les trois pays, Mali, Burkina, Niger, sont directement frappés par la propagation des activités djihadistes à partir du nord du Mali depuis 2012. Ces agissements se doublent de conflits communautaires. Les violences ont fait des milliers de morts, combattants et civils.
Les acteurs politiques de l'opposition mettent en doute cette date qui a été avancée. Certains avancent des arguments juridiques, mais pour moi, en ce qui nous concerne au niveau de la société civile, L'article 62 du code électoral stipule que le corps électoral pour les élections législatives est convoqué 70 jours avant le scrutin. En termes d'interprétation de ce délai, le président de la République est en droit, n'est-ce pas, de convoquer le corps électoral. Mais la deuxième chose, la CENI est l'organe compétent pour proposer un chronogramme des élections. Étant entendu que la première date qui a été proposée par la CENI a été rejetée par l'opposition, parce que cette date, selon elle, n'était pas tenable au vu des nombreuses tâches à accomplir avant le scrutin. Mais pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, ces débats politiciens peuvent se tenir. Mais la nécessité d'organiser les élections législatives s'impose aujourd'hui. D'abord, un, pour parachever le processus électoral, et deux, pour permettre d'avoir une Assemblée nationale légitime où certains débats politiques peuvent se tenir.
L'opposition manifeste depuis plusieurs semaines contre ce qu'elle appelle le plan du président Condé de vouloir briguer un troisième mandat. Est-ce que cela ne pourra pas compromettre les législatives de février 2020?
Parfaitement. Et il y a toujours un lien de causalité qui peut aller à l'encontre du respect de cette date. Je suis tout à fait d'avis. Mais nous sommes dans une obligation de faire la part des choses. Une opposition se bat d'abord pour le respect des principes démocratiques. Et la tenue d'élections, dont les législatives, pour moi, va dans le sens du renforcement de ces principes démocratiques. Donc, pour moi, il faut faire la part des choses entre le débat sur l'adoption de la Constitution et sur l'organisation d'élections législatives. Pourquoi? Parce que si les députés sont choisis sur la base d'élections transparentes, le débat va se trouver dans un cadre formel. Donc, nous encourageons à ce que ces élections-là se tiennent. Nous allons veiller à ce que les élections soient des élections transparentes et inclusives. Mais l'opposition doit comprendre qu'aller aux élections, c'est la raison d'être d'un parti politique, quitte à exiger les conditions optimales de sa sincérité ou de sa régularité.
Voilà, les Guinéens, sans transition, nous sommes passés à Dansa Kourouma. Il est le président du Conseil national de la société civile de Guinée. Les Guinéens iront aux urnes le 16 février pour élire leurs législateurs. C'est ce qui ressort donc d'un décret pris par le président Alpha Condé. La date initiale du 28 décembre 2019 avait été jugée irréaliste par l'opposition. Et Timothée Donagmaï a joint à propos de ces législatives dans sa Kourouma. Il est le président, je l'ai dit, du Conseil national de la société civile. Au moins 7 personnes ont été tuées et 10 blessées, dont 4 étrangers, par l'explosion aujourd'hui à Kaboul d'un véhicule piégé. L'attentat survenu en pleine heure de pointe n'a pas été revendiqué dans l'immédiat. Il intervient alors que le président afghan, Ashraf Ghani, a annoncé mardi la libération de 3 prisonniers talibans de haut rang en un apparent échange avec 2 professeurs étrangers retenus en otage par les insurgés depuis 2016, un geste qui pourrait avoir d'importantes répercussions sur le processus de paix. Des frappes israéliennes visant des positions du djihad islamique dans la bande de Gaza ont fait 2 nouveaux morts mercredi en fin de matinée, portant à 8 le nombre de décès depuis le début de la journée, selon le ministère gazaoui de la Santé. Ces frappes portent aussi à 18 le nombre de morts et une cinquantaine de blessés. Le bilan des opérations israéliennes depuis mardi dans la bande de Gaza, d'où ont été tirées environ 250 roquettes vers Israël sans faire de morts. La lutte féroce entre le président Donald Trump et les démocrates se déplace aujourd'hui sous l'œil des caméras avec les premières auditions publiques au Congrès américain dans le cadre de l'enquête visant à destituer le président républicain soupçonné d'abus de pouvoir. Combatif, le locataire de la Maison Blanche dénonce des investigations démocrates sur l'affaire ukrainienne, jurant de laver cet affront dans les urnes en remportant un second mandat lors de la présidentielle de novembre 2020. Les auditions publiques vont démarrer donc aujourd'hui avec 2 diplomates, William Taylor, chargé d'affaires américain à Kiev, et George Kent, au responsable du département d'État spécialiste de l'Ukraine. Et puis, le président Trump reçoit aujourd'hui à la Maison Blanche son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour évoquer la Syrie, le sort des prisonniers djihadistes ou encore de l'OTAN après l'annonce par M. Trump du retrait des troupes américaines déployées dans le nord-est de la Syrie. Ankara a lancé le 9 octobre une offensive kurde contre la coalition kurde. Une conférence de presse commune des 2 dirigeants est prévue cet après-midi, en début d'après-midi donc. Merci Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Oui,